Comment est-il possible de gagner en perspective, analyser les enjeux avec rigueur et influencer le succès de l'organisation? Avant de débuter l'épisode, nous avons une annonce spéciale à vous faire. Maîtriser la pensée stratégique est l'une des compétences les plus en demande au sein des organisations. Et nous voulons aller plus loin que le podcast. Au courant des 5 prochains jours, nous lançons la prévente de notre atelier en ligne « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique ». Cet atelier cohorte vous permettra d'aborder des enjeux stratégiques avec confiance et vous permettra de développer et communiquer des recommandations sur des bases solides. Nous ouvrons 10 places pour une inscription anticipée à notre atelier avec une énorme réduction en échange de vos commentaires durant la phase de finalisation de l'atelier. Notre futur atelier « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique » est disponible pour quelques jours avec une réduction de 50%. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au prix réduit de lancement. N'attendez pas, ces 10 places sont disponibles jusqu'au vendredi 26 avril 2024 à 18h. Inscrivez-vous en suivant le lien en description ou visitez-nous au www.inteliaconsulting.com/formation.
Bonjour et bienvenue à l'épisode 37 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie de Véronica Marquez et d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Aujourd'hui, nous discutons avec Claire Touvier, responsable des solutions environnementales chez Port-Alu Marine, pour comprendre les impacts de l'innovation sur une entreprise et sur ses collaborateurs. Nous avons souvent parlé d'innovation au niveau stratégique et cela fait quelque temps que je souhaitais illustrer pour nos auditeurs ce qu'est l'innovation par des exemples concrets. Port-Alu Marine est une société connue comme étant le leader mondial de la gestion, conception et fabrication de marinas en aluminium, mais qui se diversifie dans les innovations liées à la préservation de l'environnement. Claire Touvier, après une formation en droit international des affaires, s'est redirigée vers les affaires car elle pressentait que la force créatrice y était plus forte, ou tout du moins plus immédiate. Après avoir fait ses armes en marketing international pour de grands groupes de la distribution alimentaire comme Carrefour et Yoplait, elle a rejoint le leader de l'événementiel, GL Events, dans une équipe resserrée dont le projet était de développer la marque Bocuse d'Or et Syrah, des mastodontes de l'événementiel gastronomique, sur des marchés dits émergents. Turquie, Russie, Brésil, Mexique. Déjà, alors, il s'agissait d'innovation. Le cœur du concept était là, mais il lui fallait en réinventer mille nuances sur chaque marché. D'éduquer ces marchés, le fédérer à toute vitesse. Elle rejoint ensuite Port-Alu Marine, le leader mondial des installations portuaires en aluminium, avec plus de 150 collaborateurs et des unités de production en France et au Canada, avec un nouveau projet fou. Lancer le premier collecteur de déchets flottants, concept alors inédit, en collaboration avec une start-up australienne. Développement produit, vision stratégique, déploiement commercial, évolution de l'offre, pilotage de la production et des opérations, le tout en lien avec l'ensemble des compétences de Port-Alu Marine sur un format intrapreneur et équipe en circuit court agile. Et voilà, 4 ans plus tard, 1500 collecteurs de déchets Seabins sont installés dans les ports et marinas de plus de 37 pays. Le collecteur de déchets flottants se fait de plus en plus normal et de moins en moins source d'interrogation. Port-Alu Marine décide alors de devenir le leader de la collecte des déchets sur le littoral avec la première gamme de solutions appelée Serial Cleaners. Et ce n'est plus une, mais 4 nouvelles technologies que Claire lance cette année. Bonjour Claire.
Bonjour Jean-François.
La première question que je voudrais vous poser, c'est pouvez-vous nous décrire un peu votre entreprise pour nos abonnés, nos téléchargeurs, nos listeners en français?
Alors notre entreprise Port-Alu Marine, c'est le leader mondial de la construction flottante en aluminium depuis 40 ans. Et c'est une entreprise qui, autour d'un savoir-faire qui est la structure aluminium et la structure flottante, a su se diversifier ces dernières années pour aller sur des activités qui contribuent à une vision du monde de demain. Et donc, on se diversifie notamment sur l'environnement, là où on souhaite contribuer humblement, mettre notre pierre à l'édifice sur le monde de demain.
Deux éléments me frappent en me renseignant sur votre entreprise. L'importance accordée à l'innovation et celle accordée justement, comme vous venez de le dire, à l'environnement. Parlons d'abord innovation. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Qu'est-ce qui vient en premier? Innovation ou diversification? Je suis très curieux.
Mais en fait, c'est une question très intéressante. Je pense que peut-être, en tout cas, dans une structure comme Poralu Marine, qui est une structure à taille humaine, puisque c'est, comme vous l'avez dit, c'est 150 collaborateurs. On est sur des marchés plutôt de niche. Notre marché cœur historique, ça va être les ports et les marinas, même si on se diversifie aujourd'hui. La question de l'innovation, de la diversification, elle s'articule pour notre part, de façon très naturelle. Je ne sais pas si on se pose la question en interne, de façon formelle, qu'est-ce qu'on veut faire, innover ou se diversifier. En fait, je pense qu'il s'agit plutôt d'agilité, de perception des opportunités et d'une compatibilité avec une vision stratégique qui est celle de notre entreprise et qui est portée par le dirigeant. Et donc là, encore une fois, dans des entreprises à taille humaine, cette vision, elle peut être portée plus rapidement et se concrétiser plus rapidement au sein des équipes. Ouais. Et donc voilà, je trouve que c'est chez nous, innovation, diversification, j'ai envie de dire l'innovation par la diversification par l'innovation, mais dans un mouvement, je veux pas botter en touche, vraiment pas. En tout cas, c'est vraiment comme ça, je pense qu'on le vit, parce qu'avant tout, je pense qu'on vit l'innovation plutôt que la pensée. Et donc, c'est un mouvement assez naturel chez nous qu'on a toujours eu pour écrire la suite. Je pense avec un vrai enjeu d'écrire la suite et où très naturellement, on l'écrit en se diversifiant et donc en innovant.
Et tu parlais tout à l'heure de cette vision de vos dirigeants qui est facile à communiquer dans un groupe, comme tu dis, à taille humaine, 150 employés environ. Comment est-ce que ça se fait au quotidien? Comment est-ce que vous l'entendez ou est-ce que vous la vivez, cette vision stratégique au quotidien?
Je pense qu'en fait, il y a effectivement une vision stratégique très générale qui est portée par notre dirigeant. Où effectivement ça va être se dire on est une entreprise qui souhaite être une entreprise, c'est aussi avoir un impact sur le monde d'aujourd'hui et de demain. Oui, oui. Donc par exemple dans mon cas avoir un impact sur l'environnement et à partir de là comment ça se vit, je trouve que je le vis parce que nous facilitons les réflexions de façon on va dire en assez rapidement encore une fois sur l'environnement, une opportunité qui était une vision stratégique qui était avoir un impact sur l'environnement, ce profil d'une opportunité qui est une collaboration avec une start-up, donc finalement de l'open innovation, on a la chance de pas avoir à se poser la question très longtemps et si le projet fédère en interne et fédère avant tout notre dirigeant et les équipes, alors on se permet d'y aller et on se permet d'aller tester. Et on se permet de se dire qu'on apprendra en marchant et qu'on tirera les leçons et qu'on ajustera le tir en marchant du moment qu'on est fédéré sur l'idée et la vision stratégique. Un cap, et à partir de là, tout devient possible finalement.
Ouais. Voilà. Cette question-là de cap et d'alignement sur cette vision stratégique-là, particulièrement dans les concepts d'agilité, reste fondamentale. Ma prochaine question, c'est vos approches en matière d'innovation. Est-ce que vous avez des manières structurées, organisées, ou est-ce que c'est quelque chose de plus improvisé? Explique-nous un peu comment vous innovez, entre guillemets, au quotidien, sachant qu'on ne fait pas tout ça tous les jours, là, mais quelles sont vos approches? Quelle est votre approche?
Je vais rejoindre un petit peu le propos précédent. Notre approche, c'est d'innover par la vision stratégique et par cet alignement avec la vision stratégique. Et ensuite, aujourd'hui, on est un petit peu dans un format, je ne sais pas s'il faut dire en tout cas juste milieu, mais hybride entre quelque chose d'improvisé et de structuré. C'est-à-dire qu'on se retrouve autour d'outils qui vont nous permettre de valider une opportunité, donc une réflexion autour de la notion de domaine d'activité stratégique, où on va finalement faire une analyse de l'opportunité ou du marché ou de l'innovation qu'on souhaite porter, mais sur un format plutôt bêta. Qui va pas forcément nous prendre des mois, où on va rassembler une opportunité en la considérant une opportunité d'innover, j'entends, en considérant le besoin client, la cible de clientèle, comment on peut y répondre, les atouts de l'entreprise pour y répondre, faire une analyse porteur, voilà, regarder un petit peu l'intensité de la concurrence. Et donc tout ça reste quand même assez bêta. Enfin, moi, j'aime à l'appeler bêta. Et en tout cas, ça nous suffit. Donc, c'est notre structure à nous pour dire on y va. Et c'est pour ça que voilà, j'aime parler du concept d'effectuation. Parce que peut-être en opposition à des structures peut-être plus grandes ou différentes où on va nourrir des études de marché longuement et où on va se dire tant qu'on n'a pas sécurisé, balisé, on n'y va pas. Nous, vraiment à l'opposé, on se dit, ben, ce qu'on disait, c'est-à-dire on se dit, OK, si le cap en vaut la peine, si on est capable de mettre en mouvement les ressources et les compétences pour, alors allons-y. Et peut-être retrouvons-nous à des étapes sur de nombreuses étapes courtes pour pouvoir ajuster, bah, typiquement, justement, c'est ce cap et rajuster, remettre le bateau dans la bonne direction, voile, pardon, dans la bonne direction pour y arriver. Donc, on est plus peut-être sur une base de réflexion qui est structurée et ensuite une approche qui, elle, va être plus libératrice, plus improvisée et pilotée au jour le jour.
Avant de vous faire parler sur cette question-là d'apprendre en marchant, vous venez de me mentionner là, justement c'est les besoins et les ajustements. D'où viennent ces sources d'ajustements ou comment est-ce que vous faites remonter les évolutions que vous percevez soit dans l'environnement externe, soit dans chez vos clients, soit chez les usagers de vos clients? Comment est-ce que ça remonte et ça circule dans l'entreprise? Je suis très curieux.
Par exemple, on peut reprendre l'exemple du premier collecteur de déchets donc que vous avez cité et qui est aujourd'hui une vraie réussite. Notre plus grande force là dedans, parce que sur les marchés, sur ce concept de collecteur de déchets à l'époque, vous trouviez finalement, on va dire, pas mal de startups, ce qui nous a fait notre différence. Et on a travaillé avec une startup, mais ce qui a fait la différence dans notre projet, c'est effectivement d'avoir un réseau très fort, que ce soit de partenaires, donc j'entends d'agents, de distributeurs qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années, et un réseau d'utilisateurs finaux qui est fort. C'est-à-dire qu'on est capable de fédérer des utilisateurs finaux pour tester nos produits, pour nous faire ces retours produits. Voilà, parce qu'il y a un affect, parce qu'il y a une confiance, parce que bien sûr, on saura rendre cette faveur au quotidien, parce qu'il y a un plaisir partagé humain. Et je pense que une des notions aussi qui est essentielle dans notre façon d'aborder l'innovation, c'est qu'elle ne peut se faire sans l'homme, et au sens où elle ne peut se faire sans le plaisir partagé. Et pourquoi est-ce qu'on a ce réseau si fort de distributeurs, d'agents, d'utilisateurs finaux? Au final, c'est qu'on est tous réunis autour de valeurs fortes et autour du plaisir partagé. Et c'est avec, je suis persuadée pour moi, dans notre expérience, que c'est grâce à ce plaisir partagé qu'on fédère autour de nos projets et que tout cet écosystème nous suit et nous aide en temps presque réel à ajuster notre offre. Notre développement, est-ce que c'est une fonctionnalité sur laquelle on s'adresse mais qui ne trouvera pas son marché? Est-ce que on développe un produit qui va être trop gros, qui va être trop petit? Quelle est la valeur ajoutée perçue? Quels sont les marchés à viser en premier? C'est plutôt très facile pour moi, au sein de Poralu Marine, d'activer l'ensemble de nos équipes commerciales et finalement mon réseau aussi, pour ne serait-ce que là, sur notre offre de gamme unique de collecteurs de déchets, donc on appelle de Serial Cleaners. C'est assez simple pour moi de mettre en mouvement ce réseau, faire appel à lui et lui dire « Ok, aide-moi ». J'ai une partie de développement à finir ou je réfléchis sur ma POC, donc sur mon concept. Accompagne-moi.
Est-ce que on parle beaucoup aussi, soit dans le podcast, mais dans la littérature ou dans les médias en général, de minimum viable product. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez fait appel, que ce soit pour Seabin ou récemment sur d'autres projets, juste histoire de mettre quelque chose qui est peut-être imparfait, incomplet, mais pour commencer à justement recueillir ce feedback d'usagers ou de clients potentiels?
Oui, je dirais avec un gros point de vigilance quand même, c'est que je trouve en étant leader sur le marché, sur notre marché, et aussi reconnu pour sa qualité, il faut bien border cette notion de minimum viable product, parce que ouais. On peut effectivement le faire, pour notre part, on se sent à l'aise de le faire dans un cycle de développement et lorsque c'est annoncé tel quel. Par contre, pour nous, aujourd'hui, il n'est pas tout à fait possible de se positionner avec un produit qui serait de l'à peu près
ouais.
auprès de nos utilisateurs finaux. Mais j'ai envie de dire, là, c'est un peu le revers de la médaille, c'est parce qu'on est leader. Donc, on borde bien, effectivement, oui, la notion de minimum viable product, mais bien mais... expliquer ouais. aux usagers, parce que je pense que ça peut rapidement se retourner... contre nous dans notre position de leader et moi ce que je comprends tout à fait c'est à dire qu'on attend d'un leader la qualité on est plus
donc ouais c'est ça on veut pas abîmer l'image ou l'image ouais. de marque ou l'image ouais. de l'entreprise en envoyant quelque chose qui serait vraiment même pas minimum viable il serait peut-être un peu bêta test en réalité ouais je comprends
oui.
ce que
oui c'est voilà c'est exactement ça c'est pour ça que en tout cas nous notre façon d'approcher ces développements produits c'est de bien fédérer notre écosystème donc d'utilisateurs finaux de bêta testeurs en amont pour que tout le monde soit bien drivé et soit bien au courant que effectivement c'est un minimum viable product qui est un produit ouais. ambassadeur ou une pré-série avant d'y aller sans plus d'explications sur le marché où là je comprendrais qu'on soit surpris si on mettait juste un minimum viable product sur le marché sans vraiment expliquer que il y a du fine tuning à faire et ça n'arrivera ouais. que dans quelques mois voilà ça on peut peut-être moins se le permettre.
Je sors de deux podcasts sur le make or buy. Tu m'as parlé beaucoup de clients et de distributeurs de votre écosystème moi, que j'appellerais downstream. Upstream, côté fournisseur, est-ce qu'il y a ce même état d'esprit? Est-ce que vous arrivez à faire partager ça avec vos fournisseurs clés ou vos fournisseurs, vos partenaires clés upstream, disons en amont dans la chaîne de valeur?
En termes d'innovation ou d'écosystème, c'est-à-dire
ouais,
participer
en termes d'innovation
à l'innovation
ou, oui, ou de, ouais. de les faire amener à participer à justement à investir dans quelque ouais. dans une nouveauté ou dans un projet d'innovation.
Alors nous à l'étape mon témoignage c'est qu'à l'étape où on est nous, je dirais que oui, mais on peut faire plus et mieux. Ouais. C'est peut-être pas notre premier focus, mais parce que avant tout, on a plusieurs unités de prod. Donc, la plupart de nos technologies, de nos produits, on essaye d'en avoir un maximum de valeur chez nous, ouais. et donc de fabriquer tout ou partie de nos produits. Et donc finalement, on a nous des relations pérennes, fortes avec nos fournisseurs, ça c'est certain. Par contre, les impliquer dans l'innovation en amont, c'est des choses qu'on a fait. J'ai des exemples en tête ponctuellement, ouais. mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va pousser.
C'est pas encore
c'est
la règle.
Voilà, on n'en est pas encore là nous.
Alors, tout à l'heure, tu as dit apprendre en marchant, et moi, je suis maintenant connu là, pour mes citations latines, là, je ne la répéterai pas, mais parle-nous d'apprendre en marchant. Comment est-ce que ça se fait chez Poralu Marine? Comment est-ce que ça s'incarne à travers toute l'organisation, du plus haut jusqu'au plus bas, ou d'un bout à l'autre?
Moi, je dirais que l'erreur chez Poralu Marine n'est pas synonyme d'échec et surtout elle est autorisée. Et ce qui n'est pas autorisé, c'est de ne pas réagir vite à l'erreur et donc encore une fois de ne pas rétablir ce cap. Et donc on en revient à la notion d'agilité. Mais avant tout, je pense qu'il sous-tend cette possibilité, enfin voilà, oui, cette possibilité de commettre une erreur. Je pense que c'est une volonté de ne pas rentrer dans un système qui, encore une fois, qui réprimanderait cette erreur. Donc j'en reviens à la question des valeurs, mais parce que je pense qu'elle est très importante chez nous aussi dans notre façon d'aborder l'innovation. Et donc je pense que c'est on a des valeurs chez Poralu Marine qui se veulent être la bienveillance, l'authenticité et d'autres, et qui sont quand même dans un système, je vais peut-être dire, de vérité où le trial and error c'est pas un problème. Et donc c'est vraiment ça le apprendre en marchant. Donc en fait sur la question de l'erreur, c'est vrai que chez Poralu Marine, l'erreur n'est pas un échec et l'enjeu avant tout c'est de rétablir l'erreur. Et toutes les erreurs sont permises du moment qu'on est capable de réagir immédiatement pour rétablir le cap. Donc c'est vrai que je parle tout le temps de ce cap, mais pour rétablir le cap. Et en fait, pour pouvoir permettre que l'erreur ne soit pas vue comme un échec, Je pense qu'on est sur des notions plus profondes et chez nous, ça touche à des notions de valeur. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système qui nourrit la réprimande de l'échec et donc qui, de l'erreur, pardon, et qui nourrirait des comportements déloyaux. Ouais. L'erreur n'est pas à cacher. L'erreur, c'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. L'erreur n'est pas un échec. Et donc, en disant ça, on peut être dans une vérité, une authenticité qui permet d'apprendre. Parce que du coup, on ne se cache rien. Et c'est quand même ça le gros enjeu, je pense, pour être juste dans l'innovation ouais. chez nous. C'est ouais. qu'on ne se cache rien. Il est possible de tout dire, de reconnaître tout échec, toute mauvaise interprétation, mauvaise projection. Dans la mesure où on porte cette erreur, on l'assume. Et où on peut en discuter pour rétablir le cap et rétablir le cap ensemble. Et ça, je trouve ça important, c'est que l'innovation chez nous, elle se fait pas par une personne seule. Et donc c'est la capacité de, ben, un petit peu pour ma part en tout cas aussi de chef d'orchestre, de dire je vais prendre mon exemple à moi, je fais une erreur. Je vais peut-être pas me mettre tout seul devant ma feuille en me disant ok j'ai fait une erreur, maintenant qu'est-ce que je fais. Et il y aura aucun problème pour Alumarine pour dire bon on se met autour d'une table. J'ai fait une erreur, ou voilà, l'équipe a fait une erreur.
Ou ça, ça marche pas, ouais.
Voilà, toutes les compétences, ça marche pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre analyse? Comment vous pouvez m'aider? Ouais. C'est quand même hyper libérateur pour l'innovation aussi, je trouve.
Ouais, ouais. Donc, vous allez chercher les solutions dans un collectif plutôt que redemander à la personne qui a fait une erreur de la corriger.
Pas du tout, ouais, exactement, exactement. Et à tout niveau.
Et ça me rappelle Henrik Nyberg de chez Spotify quand il parlait de la culture de chez Spotify, il disait que le droit à l'erreur est important et ils avaient même un fail wall, un mur des échecs où chaque équipe est encouragée à mettre leur plus grosse gaffe et aussi bien sûr quels sont les apprentissages qu'ils en ont tirés. Laissons de côté l'innovation et retournons à l'environnement maintenant. Et c'est un sujet, bien entendu, dans les médias dont on entend souvent parler. Comment êtes-vous venu à vous en préoccuper? Vous parlez que c'est une valeur importante. Ça tombe pas des cieux, ça, d'habitude. Ça arrive, ça émerge. Ouais. Comment est-ce que c'est? Raconte-moi l'histoire de cette préoccupation de l'environnement chez Poralu Marine. Ça passe pas par récupérer les copeaux d'aluminium sur le plancher de l'usine.
Non. Deux choses. La première, je pense que c'est dans la vision stratégique de notre dirigeant depuis un certain nombre d'années et qui est en fait la vision stratégique très globale que j'ai citée plus tôt, mais qui est de se dire, parce que ici on le porte tous, ouais. de se dire une entreprise se doit ou peut avoir un impact sur le monde d'aujourd'hui et de demain. Et c'est aussi ça, entreprendre, c'est avoir un impact. Ouais. Nous, on travaille sur le littoral. On travaille depuis 40 ans sur le littoral. Donc, ce littoral, on le voit se dégrader depuis 40 ans. Ouais. Et en plus de le voir se dégrader, pour nous, c'est un enjeu d'affaires.
Ouais.
C'est-à-dire que si le littoral demain est tellement pollué qu'on n'a plus envie de venir l'aménager,
ouais. Ou de l'habiter ou de le fréquenter, ouais. Ouais.
Voilà, on n'aura plus non plus nous de business à faire sur ce littoral. Donc c'est ces deux facteurs qui nous ont amenés à nous dire. On veut avoir un impact sur les écosystèmes humains, mais les écosystèmes environnementaux. Mmh. Et le littoral, enjeu d'autant plus important puisque c'est celui qu'on travaille tous les jours. Donc bien sûr qu'il nous touche, bien sûr que sa dégradation nous touche. C'est en plus un enjeu d'affaires. Et j'ajouterais qu'il y a aussi une notion d'opportunité d'affaires, c'est qu'il aurait été impossible pour nous de se projeter sur un marché de solutions environnementales s'il n'y avait pas de marché. Faut quand même être honnête. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas, si on était il y a 10 ans, on n'aurait pas pu. Ce qu'on a fait il y a 5 ans avec Sibine, on n'aurait pas pu le faire.
On n'aurait pas pu le faire il y a 10 ans.
Voilà. Quand bien même c'est dans nos valeurs, quand bien même le littoral est important, on peut commencer à y réfléchir. On peut se dire qu'on voudra s'inscrire là-dedans, mais on n'était pas prêt à pouvoir faire naître ce marché. Donc,
d'accord.
Il y avait aussi un juste moment pour dire on est prêt. à avoir des offres de marché, on reste une entreprise qui met des offres disponibles sur le marché. Il faut qu'il puisse y avoir un marché ou qu'on puisse créer ce marché.
Donc, en quelque sorte aussi, ce message-là est bien reçu par vos clients et les usagers de vos clients. Ça vient un peu de la base, finalement, aussi.
Oui, je pense qu'il y a deux choses. Nous, c'est ce qu'on constate, et c'est encore l'enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire que ce marché de solutions environnementales, quand on a décidé d'y aller, c'est qu'on savait qu'il y avait ou il y aurait bientôt un marché.
Mmh.
Et
d'accord.
Pour qu'il y ait bientôt potentiellement un marché. Donc on se dit, voilà, on n'est pas il y a 10 ans où c'est impossible, on est il y a 5 ans, on se dit, voilà, on va y aller. On sait aussi qu'on va devoir être ambassadeur de ce marché.
Ouais.
On sait qu'on va devoir faire preuve d'une force de conviction phénoménale et qu'on va devoir éduquer le marché, pour reprendre ce terme.
Ouais,
donc,
ouais.
Nous, on ne se positionne pas, sinon ce ne serait pas innover, on ne se positionne pas sur le marché quand le besoin est déjà clair et qu'il est là et que les modèles d'affaires sont
bien
faciles et qu'il suffit de venir prendre sa place. Donc, il y a une grosse part de risque à choisir le moment où on sent que ce marché peut émerger. Et sur les solutions environnementales, je vais dire ça avec une humilité parce qu'on n'est pas les seuls, on n'est pas un simple acteur qui vient amener des solutions. Je vais reprendre ce mot, mais on éduque le marché au sens où on fait prendre conscience à nos utilisateurs qu'il y a un enjeu, qu'ils doivent y répondre et qu'on a une solution pour pouvoir y répondre. Et ça se fait pas immédiatement. Ça veut dire qu'il faut de la résilience, il faut de la force de conviction, il faut garder son cap.
Ouais.
Et il faut raffiner ces innovations jusqu'à ce que l'offre soit assez percutante pour que les premiers utilisateurs et ensuite, vous connaissiez en tant que professionnel de l'innovation, qu'ensuite la masse des utilisateurs et du marché se joignent à cette nouvelle pratique. Donc, il faut changer la culture du marché.
Voilà. On ne parle pas encore beaucoup d'activités nautiques environmentally friendly ou de décarbonation du secteur nautique, mais j'ai hâte de voir comment vous allez adresser ça quand il y aura des bateaux électriques qui viendront s'installer dans les marinas du littoral en Europe et en Amérique.
Si je peux te donner un exemple. Aujourd'hui, on lance une gamme qui s'appelle The Serial Cleaners et donc qui est 4 technologies complémentaires qui viennent permettre de mailler tout un territoire du littoral pour répondre à la question de la pollution, des déchets flottants ou à terre, mais donc sur le littoral. Et nous, pour nous, le littoral, c'est 100 mètres sur la terre et 100 mètres sur l'eau. C'est peut-être quelque chose que je pourrais redire pour le redonner en intro, voilà, ça donne une bonne idée. C'est quelle que soit la typologie de site, 100 mètres sur l'eau, 100 mètres sur la terre. Et par exemple, nous, aujourd'hui, on vient de lancer un robot qui s'appelle le Bebot.
Ouais.
Et qui est le seul robot aujourd'hui capable de nettoyer le sable sur des tailles de déchets petites sans venir aggraver le phénomène d'érosion des plages et sans venir perturber la faune et la flore.
Au moins les mégots de cigarettes, j'espère.
Bien sûr, avant tout les mégots de cigarettes.
Ouais, ça y est.
Et ça, c'est aujourd'hui, c'est une offre qui est unique. Et on éduque le marché au sens où il y a de nombreux marchés dans le monde qui n'ont aucune conscience de l'impact des technologies traditionnelles de nettoyage des plages sur la qualité du sable ou sur l'environnement.
Ouais. Ouais.
Et donc, avant même de pouvoir porter cette solution, il faut aussi pouvoir, et le faire de façon crédible, apporter ce sujet, lui donner plus de lumière et dire voilà aujourd'hui ce qui se passe. Notre robot est une solution. Il y en aura d'autres puisque la concurrence est bonne. Et si on fait naître ce marché, demain, on aura de la concurrence. En tout cas, c'est un sujet et on peut y répondre. Donc ça fait partie, c'est vraiment porter ces sujets sur le devant de la scène, et c'est ce que j'appelle éduquer le marché et le marché petit à petit sur nos problématiques devient plutôt assez réceptif des bénéfices environnementaux parce qu'ils sont crédibles, bien sûr.
Ouais, autrement dit, vous préoccupez à faire grossir ces marchés-là plutôt que de l'importance de la part de marché que vous vous accaparez.
Exactement.
Autrement
exactement.
Dit, on essaie de faire grossir la tarte plutôt que d'aller chercher une plus grosse pointe de tarte.
Exactement.
Ce que vous me dites, je termine la dernière question. Ce que vous, votre discours, cette façon dont vous en parlez, ça m'indique aussi que ça doit pas être facile de trouver des bons collaborateurs pour une entreprise qui est aussi ouverte et qui est aussi qui dont les valeurs sont aussi affirmées. Comment vous assurez-vous que vos employés soient ouverts de cette manière-là, autant sur les questions d'innovation que sur les questions de d'environnement?
C'est très simple, mais ô combien fondamental. Je pense que l'ensemble du recrutement chez Boralu Marine se concentre sur les valeurs humaines.
Ouais.
La bienveillance, l'authenticité, l'écoute, l'humilité, et que on part du principe que si on a ces valeurs-là profondes, alors tout est possible. Et moi, c'est quelque chose de très concret que je vis au quotidien, mm-hmm. puisque mm-hmm. c'est une entreprise qui innove à un rythme très rapide, et ça peut être compliqué de faire bouger des équipes aussi rapidement que son service de développement qui baigne dans l'innovation matin, midi et soir.
Oui.
Et pour faire bouger ces équipes-là, ça veut dire qu'il faut avoir une écoute forte du besoin des uns des autres et une compréhension que ces besoins sont mouvants, que les réalités sont mouvantes, et il faut avoir l'envie de rejoindre l'autre pour pouvoir être performant dans des zones où on innove, donc où on explore, où on sait pas tout, où peut-être que mon hypothèse bêta et mon minimum viable product n'est pas bon, ne va pas marcher, et je prends l'exemple peut-être de donner un minimum viable product à des équipes commerciales qui vont elles le porter dans leur chair, ce produit, et si c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, donc comment on emmène ces équipes-là aussi, et puis comment nous, équipe de développement, on apprend aussi à écouter des fonctions opérationnelles qui vont pas avoir les mêmes enjeux. Chez Boralu Marine, ça passe par les valeurs et ça passe par un recrutement qui est plutôt très exigeant
cooptation.
Sur ces valeurs-là.
Ça me rappelle aussi Southwest, une compagnie aérienne américaine, nord-américaine, surtout aux États-Unis, qui, dans les premiers cas, quand on a commencé à regarder ça, ça ressemblait énormément à ce que tu viens de nous dire. Quelques mots pour terminer. Où vois-tu l'innovation aller dans votre entreprise? Qu'est-ce qui vous reste, entre guillemets, sur quels aspects cherchez-vous à vous améliorer aujourd'hui ou dans les années qui viennent?
En interne ou dans la structuration interne?
Ouais.
Je pense que, comme je disais au début de notre échange, chez nous, l'innovation, c'est un mouvement naturel plutôt que et un comportement naturel impulsé par notre dirigeant plutôt que qu'une méthodologie ou une organisation formalisée. Et je pense qu'aujourd'hui, notre volonté, elle est de trouver un juste milieu pour peut-être un peu plus de structuration, puisqu'on multiplie les projets d'innovation.
Ouais, ouais.
Et en multipliant ces projets d'innovation, il faut pouvoir avancer groupé.
Ouais.
Pour entre services bien communiquer, donner toute la place à chaque pôle d'innovation. Et donc l'enjeu pour nous, il est là-dessus, il est de se structurer, mais au juste, dans sa juste mesure.
Ouais, trouver le bon équilibre. Ouais.
Voilà, parce que je pense que dans notre ADN, les collaborateurs ont toute leur liberté dans l'approche à innover, tant qu'on le fait ensemble, parce que c'est vraiment quelque chose qui est fait collectivement. Mais en tout cas, on ne voit pas l'innovation comme un process, qui peut être quelque chose qui est plus vu d'une approche process dans d'autres entreprises. Le process nous garantit l'innovation. Chez nous, on est plutôt à l'opposé. Donc, on cherche par contre à intégrer les process comme des bons outils au bon moment. Et ça, c'est tout l'enjeu en ce moment. C'est quel process, à quelles étapes pour en faire de bons outils sans que ça sclérose notre capacité à innover et à innover rapidement. Voilà.
Merci beaucoup, Claire. Je vous reposerai les mêmes questions quand vous serez rendu 300 ou 500 collaborateurs, voir où est-ce que vous en êtes rendu dans ces questions-là. Je vous remercie infiniment pour cette discussion passionnante. Je remercie beaucoup Claire Touvier pour son temps et ses réponses passionnantes. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Pour consulter les notes de l'épisode, veuillez visiter le site www.inteliaconsulting.com/épisode37. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre podcast sur le site ou sur vos plateformes de choix, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente semaine.